Est-ce que les femmes transgressent moins la loi que leurs congénères masculins ? Voilà une question que je me suis posée après avoir assisté pour la première fois, en tant que chroniqueuse judiciaire, à un procès dont l'accusée était une femme. Je me rappelle très précisément l'effet que ça m'a fait de la voir arriver dans le box, en face de moi. En la regardant s'installer, entourée de gendarmes, j'ai pris conscience que, jusqu'à ce moment-là, la totalité des procès que j'avais suivis impliquait uniquement des hommes prévenus ou accusés. Que les coupables avaient, au regard des chiffres, un genre. C'est en tout cas ce qui semble ressortir des statistiques judiciaires des pays de l'Union européenne. Les femmes sont moins présentes sur les bancs des accusés et elles sont moins nombreuses en prison. Mais si les femmes commettent statistiquement moins de crimes que les hommes, quand elles passent à l'acte, elles perpétuent une double transgression. Parce qu'elles transgressent leur genre en même temps que la règle de droit. C'est notamment pour ça que, comme l'explique l'historienne Fanny Bunion, dans le procès d'une femme se joue en réalité le procès de la femme. C'est pourquoi la criminalité féminine a toujours nourri dans l'imaginaire social, politique, religieux, des fantasmes beaucoup plus puissants et inébranlables que la criminalité masculine. Et il n'y a jamais eu de figure plus dangereuse, plus malsaine, pas de figure plus emblématique de la déviance féminine que celle de la sorcière. Selon Fanny Bunion, la sorcière incarne la figure quasi matricielle de la femme criminelle. La mère de toutes les femmes coupables, en fait. C'est encore une insulte aujourd'hui. J'ai déjà entendu des femmes être qualifiées de sorcières, en audience, par des hommes ou par d'autres femmes d'ailleurs. Une insulte pour dénigrer, pour souligner sa malice, son côté maléfique. Et pour ce que ça vaut, je n'ai jamais entendu un homme être traité de sorcier au tribunal. Depuis quelques décennies, en parallèle d'une réappropriation féministe, popularisée notamment avec le récit de l'essayiste Mona Chollet, la figure de la sorcière existe surtout en tant que personnage de fiction. Personnage iconique, nécessaire presque, de méchante, dans les contes pour enfants par exemple.
Sorcière, sorcière, prends garde à ton derrière. Sorcière, sorcière, prends garde à ton derrière. Sorcière, sorcière, prends garde à ton derrière.
Mais derrière la figure de la sorcière, il y a en réalité une multitude d'histoires individuelles, de réalités historiques. La persécution de dizaines de milliers de personnes a abouti en Europe à l'exécution d'au moins 70 000 individus, dont une très large majorité de femmes. À l'âge d'or de la chasse aux sorcières, c'est-à-dire fin 16e, début 17e siècle, dans les régions les plus ambitieuses en la matière, on a décompté jusqu'à 25 bûchers par an, soit une exécution pour sorcellerie tous les 15 jours à peu près. Et pourtant, de combien de ces femmes connaissons-nous l'histoire ? Il y en a une dont l'histoire nous est parvenue. Vous aurez peut-être entendu parler d'Anna Goldie, connue pour avoir été l'une des dernières, si ce n'est pas la dernière sorcière d'Europe. Anna Goldie a été exécutée en 1781, en Suisse. Cette femme est donc morte bien après le XVIe ou le XVIIe siècle, bien après l'âge d'or de la chasse aux sorcières, justement. Son procès s'est tenu en plein siècle des Lumières. Le siècle du savoir, de la philosophie, de la raison. Et c'est ça qu'on a retenu d'elle. Mais que sait-on de sa vie ? De ce qui s'est dit pendant son procès, de ce qui a conduit à sa condamnation ? Loin des personnages de fiction, des grandes figures, des symboles, des catalogues de supplices, intéressons-nous au parcours judiciaire de cette femme, à son histoire, à la réalité historique de son vécu. Derrière la condamnation de la Suissesse se cache un jeu de pouvoir où se mêlent politique, rumeurs, réputation, séduction. Comme souvent. Parce que bien sûr, un procès de sorcière n'est jamais qu'un procès de sorcière. Retour sur le dossier Anna Goldie. Pour nous accompagner tout au long de ce récit, Maryse Simon, historienne.
Faites de cette femme une espèce de vampe.
Les femmes sont exclues du monde judiciaire.
De Circé.
J'étais bête.
Cruelle.
Méchante.
Inflexible.
Pleine de défauts.
Sadique et perverse.
Femme coupable.
L'audience est suspendue.
Un podcast La Première de Juliette Proutot.
Admettons que quand tu as buté ton vieux, ça t'ait rien fait.
Préparé avec Margot Page.
Et quand on va te couper la tête, ça va quand même te faire quelque chose.
Et réalisé par Anna Buy et Alexandre Duval.
On ne coupera pas la tête.
Femme coupable, épisode 2. Anna Goldie. Le procès de la dernière sorcière d'Europe. Le 21 mars 1782, au petit matin, une femme est extraite d'une petite cellule située au dernier étage de l'hôtel de ville de Glaris, un petit canton en Suisse niché au milieu des montagnes. Elle doit avoir la quarantaine, elle est plutôt grande, bien bâtie comme on dit, avec des cheveux très foncés et des yeux gris. Elle est très maigre et sur son visage il n'y a plus aucune couleur. Ses lèvres sont aussi pâles que sa peau. Des marques d'entraves sont visibles sur ses chevilles douloureusement incrustées. Elle n'a pas vu ni la lumière du jour ni senti l'air frais des sommets depuis longtemps, c'est évident. De Joliet l'amène dans la salle du tribunal de la petite commune. 60 hommes, exactement. À la regarder s'avancer, seule, nu-pied dans la pièce. C'est un procès à huis clos. Le public n'est pas admis. Et si tous les hommes présents désirent ardemment ce procès et son issue morbide, ils n'ont aucune envie d'en faire la publicité. C'est que ce genre de procès, c'est-à-dire un procès de sorcellerie, ça n'a plus trop la cote en Europe en cette fin de XVIIIe siècle. Depuis quelques décennies au moins, dans ce siècle des Lumières, la tendance est plutôt à la rationalisation, au cartésianisme. Les voisins français, allemands ou italiens, pourtant pas moins croyants, ont cessé depuis longtemps ce type de poursuite. Mais il faut bien qu'on se débarrasse d'elles. On n'est pas des fanatiques dans la région, surtout parmi eux, parmi les élites, mais bien, chaque problème sa solution. Et depuis quelques semaines, des mois en réalité, à Glaris, ce problème s'appelle Anna Guldi. Installée à la barre devant eux, elle s'apprête à répondre à son premier interrogatoire. La cour est présidée par le trésorier du conseil, Jost Heist, et par le bailli, c'est-à-dire le représentant du canton, l'équivalent du bourgmestre un petit peu, le bailli Altmann. Ils feront office de juge dans cette affaire. Il y a aussi un greffier, il s'appelle Johann Melchior Kubli, et il est chargé de noter tout ce qui va se dire pendant les audiences. Il est installé sur le côté et il a l'air un peu mal à l'aise. Peut-être baisse-t-il les yeux au moment où les charges contre la jeune femme sont énoncées.
Anna Guldi, vous êtes accusée d'avoir commis un acte monstrueux sur la personne d'une enfant innocente de 8 ans, en lui faisant absorber par des voies mystérieuses, des moyens secrets, une quantité d'épingles, d'aiguilles et autres objets. Reconnaissez-vous les faits qui vous sont reprochés ?
Non, je suis innocente, leur répond-elle. Cette femme, elle s'appelle Anna Guldi. Elle a 48 ans, elle travaille en tant que domestique depuis ses 14 ans. Elle ne sait pas lire, pas écrire, elle n'a pas de famille. Et elle est accusée d'avoir pactisé avec le diable. Séquence 1. Mais c'est quoi une sorcière déjà ? Avant de plonger dans l'histoire d'Anna Guldi, pour comprendre les enjeux qui s'articulent autour de son procès, il faut revenir quelques siècles auparavant. Au moment où l'on a commencé à s'intéresser aux sorcières, ou à les créer.
La sorcière est une figure créée par plusieurs étapes.
Marie Simon, historienne.
Et qui a des racines dans la mythologie, dans les références bibliques. Elle apparaît dès l'Antiquité, avec des figures qu'on connaît particulièrement, Circé, Méduse, même Pandore, il y a vraiment beaucoup de modèles. Mais là, on a commencé à plus la construire en tant qu'accusée, en tant que personne humaine qu'on peut traduire en justice, surtout à partir du moment où on a diabolisé le diable, c'est-à-dire après le XIe siècle. Là aussi, la sorcellerie, la magie était quelque chose de ridicule, le diable était une entité qui était imparfaite et les sorcières étaient plutôt des magiciennes mais qui étaient moins néfastes. Et les choses se sont polarisées, se sont cristallisées au fur et à mesure pour aboutir à la grande chasse aux sorcières. On pense souvent que c'est au Moyen-Âge. Or, la grande période de la chasse aux sorcières, c'est le XVIe et XVIIe siècle. Donc on est Renaissance, on est l'époque moderne, mais là encore, par exemple, dans le premier tiers du XVIe siècle, la femme était plus libre et avait une plus grande marge de manœuvre, et on le voit même dans les illustrations. Dans les sorcières représentées par Hans Baldungrin, on voit des jeunes femmes qui toisent d'un regard lubrique le spectateur. Plus tard, on voit des vieilles femmes plus décrépies, on les rhabille, les sorcières. Donc il y a une dégradation, ou par exemple au XVIe siècle, du statut de la femme. C'est pas linéaire. C'est-à-dire que les femmes ne vont pas depuis la nuit des temps jusqu'à l'époque contemporaine sur une avancée en ligne droite. On parle de chasse aux sorcières quand, en fait, il y a eu deux mouvements qui se sont rencontrés. À la fois une volonté de criminaliser, de poursuivre de la part des élites, des théoriciens, mais aussi il faut la volonté des villageois, des gens du peuple, pour dénoncer. puisqu'on dénonce quelqu'un qui risque d'être brûlé vif sur un bûcher. Et là, envoyer à cette mort atroce votre voisine, peut-être la marraine de votre petit dernier qui vous a dépanné quand vous n'avez plus de pain, ou qui peut-être vous a sauvé quand votre mari vous avait battu, c'est pas anodin. La sorcière, elle fait partie de la communauté. On ne peut pas la déceler, ça ne se lit pas sur son visage. Et donc, c'est le crime caché à l'intérieur même de la communauté. Et donc, pour la démasquer, la dénonciation est très importante. Et cette dimension de dénonciation, d'adhésion de la part des villageois est nécessaire pour qu'il y ait cette flambée des bûchers à l'époque moderne.
En effet, si les procès en sorcellerie ont commencé au Moyen-Âge, c'est donc à la Renaissance puis à l'époque moderne que se situe l'âge d'or de la chasse aux sorcières. Et ce n'est pas un hasard si cette époque correspond à celle de l'essor de l'imprimerie. Parce que c'est dans les livres que la répression va puiser sa source. Si les tout premiers ouvrages de démonologie remontent au XIVe siècle, c'est avec l'impression à grande échelle d'écrits puis d'illustrations, de gravures, que la criminalisation des sorcières se diffuse et s'intensifie. L'historien Guy Bechtel parle d'une opération médiatique qui utilisa tous les vecteurs d'information de l'époque. Les livres pour ceux qui lisaient, les sermons pour les autres, et pour tous, grande quantité de représentations. Certains ouvrages font d'ailleurs figure de best-seller, à l'image du plus célèbre d'entre eux. Le Maleus Maleficarum, ou le marteau des sorcières en français. Le Maleus est un véritable manuel de chasse et de persécution à l'encontre des sorcières. Il a été écrit par deux inquisiteurs dominicains en 1486 et sera réédité une vingtaine de fois pour un total de près de 30 000 exemplaires. C'est énorme pour l'époque. Et comme le rappelle l'essayiste Mona Chollet, le marteau des sorcières entretient une hallucination collective en accréditant l'idée d'une menace imminente qui exige l'emploi de moyens exceptionnels. Et cet ouvrage, parce qu'il sera ensuite copié, plagié, parce qu'il va essaimer dans toute l'Europe, eh bien il va avoir des conséquences directes, très concrètes, sur la criminalisation des sorcières. Ainsi, comme le souligne Guy Bechtel, dans tous les procès, les juges vont s'en servir, ils vont poser les questions du Maleus et entendre les réponses du Maleus. Et c'est le Maleus toujours qui va aussi participer à orienter l'Inquisition, la chasse, vers les femmes sorcières. Parce que, selon le livre, les sorciers sont peu de chose. Il y a des hommes qui ont été accusés de sorcellerie. On évalue entre 20 et 30% le pourcentage d'accusations à l'encontre de sorciers. Mais même si certaines régions, comme la Normandie par exemple, a regroupé davantage de sorciers que de sorcières, c'est sur les femmes que le phénomène de chasse s'est concentré.
À l'époque de la chasse aux sorcières, la sorcière, c'est une personne qui agit consciemment avec l'aide du diable et de la magie pour nuire aux êtres humains, à la terre, à la nature, à la création de Dieu. Et donc il y a cette dimension de, en toute connaissance de cause et par des procédés magiques avec l'aide du diable. Donc ça, c'est la définition telle qu'on la trouve dans la démonomanie de Jean Bodin et qui est reprise dans l'idée générale de tous les démonologues, les théoriciens de la chasse aux sorcières. Mais dans la bouche des accusateurs et dans peut-être la tête des accusés, la définition n'est pas forcément exactement la même, puisque cette idée d'adhésion consciente n'est pas toujours là. Et même les juges locaux, dans certains procès, essayent de faire dire aux accusés « Ah, mais tu as été trompé par le diable, tu l'as fait à l'insu de ton plein gré, et tu peux avoir commis tous ces actes sans vraiment le savoir au départ ». On parle des sorcières plutôt que de sorciers, puisque c'est un crime qui est plutôt féminin, déjà dans la tête des théoriciens et de la sorcellerie, de la démonologie, parce que la femme est considérée comme étant beaucoup plus imparfaite, beaucoup moins forte, et donc plus encline au péché, à la luxure, qu'on peut corrompre, qui a beaucoup de défauts, et donc que le diable peut utiliser pour séduire ses victimes et les amener à lui. Et cette dimension sexuelle, c'est aussi pour sceller le pacte. Les traces de culte véridique, d'une quelconque existence, d'un culte satanique, n'existent pas dans la réalité, hein, à l'époque de la chasse aux sorcières. Ce ne sont que des aveux, donc du déclaratif de personnes accusées et torturées. La sorcellerie révèle des tensions sociales, des tensions entre hommes et femmes, des tensions entre classes, et qui aboutissent à cet éclat et cette intensité de bûcher.
cette répression meurtrière va se calmer progressivement à partir de la fin du XVIIe siècle. Il y a plusieurs raisons à cela, notamment avec les balbutiements des Lumières, ce mouvement philosophique dont l'ambition sera de combattre l'ignorance par la diffusion du savoir.
La montée d'un discours aussi sceptique vis-à-vis de la sorcellerie, puisqu'il y a quand même des personnes qui ont pris la défense des sorcières. On pense à Johannes Weyer, Jean Vir, qui était donc un médecin. Lui disait que c'était des femmes, des pauvres femmes, des vieilles, des hystériques, qu'il ne fallait pas poursuivre, il fallait plutôt avoir pitié d'elles. Mais il croyait en la sorcellerie, mais il pensait que les femmes accusées de sorcellerie, évidemment, n'étaient pas, étaient plutôt des sottes, et qu'on devait les laisser tranquilles. Mais la croyance en la sorcellerie était quand même importante. Bien sûr, les lumières n'ont pas éclairé tous les esprits immédiatement. Les croyances restaient actives, si on veut, mais dans le paysage judiciaire, on ne pouvait plus poursuivre et condamner et exécuter. Mais ça n'a pas annihilé, puisque justement le cas d'Anna Goldie montre bien que même dans les années 1780, on peut avoir une accusation qui est assez typique d'un procès de sorcellerie et que les croyances sont encore partagées par un certain nombre de personnes.
Anna Goldie est née en 1734. Bien longtemps donc après l'Inquisition contre les sorcières. Mais des croyances persistent dans ce petit coin de Suisse. Et puis, le procès d'Anna, c'est autant une affaire de sorcellerie que de réputation, de politique. La situation dans laquelle elle se trouve, face à ses juges et à sa mort prochaine, eh bien, elle est moins liée à la sorcellerie qu'à ce qu'elle a vécu, au choix qu'elle n'a pas eu dans la société qui était la sienne.
Séquence 2. Devenir sorcière, Anna Goldie et l'autre siècle des Lumières.
Anna Goldie est donc née en 1734, le 24 octobre exactement, dans le district ou le bailliage, comme on disait alors, le bailliage de Saxe. C'est au nord-est de la Suisse, pas très loin de Zurich. D'ailleurs, c'est le patriciat et le conseil de Zurich, composé des plus importantes familles protestantes qui gouvernent cette région. C'est une région très rurale, où il y a des petites plaines qui ponctuent des grandes chaînes de montagnes. On parle des Alpes glaronnaises d'ailleurs, avec des sommets mythiques, comme le Ringelspitz, qui culmine à près de 3300 mètres d'altitude. Anna grandit donc dans cet environnement montagnard, rude, très conservateur, dans la petite commune de Zenfeld. Comme une grande majorité de la population locale, elle est issue d'une famille très modeste. Son père, Adrien, est paysan, il cultive des pommes de terre, du maïs et aussi du lin. Lin qui est ensuite tissé par sa mère, Rosina. Comme ses parents, qui sont analphabètes, Anna ne va pas à l'école. Donc, comme tant d'autres enfants et adolescents de la région, elle doit gagner sa vie et vite. Après avoir passé son enfance à aider à la petite ferme familiale, elle est engagée comme domestique dans une exploitation agricole. Elle n'a pas 14 ans. La charge de travail est colossale. Pendant plus de 10 ans, la jeune femme enchaîne les petits boulots, les places de servante, d'aide à tout faire, tout ce qu'elle trouve dans le coin. À 28 ans, elle rencontre un homme, Jacob. Il est plus jeune qu'elle. Il est subjugué par la domestique. C'est qu'Anna est belle. En tout cas, elle a du caractère, quelque chose de fort, de puissant. Elle tombe amoureuse. Et puis elle tombe enceinte. Et puis il n'est plus aussi subjugué que ça, finalement. Parce que Jacob a bien d'autres ambitions que celui de se marier et de prendre ses responsabilités. Voyez-vous, le jeune homme veut devenir compagnon du devoir, menuisier, à Paris plus exactement. Or les compagnons n'ont pas de femme, et un menuisier à Paris n'a pas de femme à Zenfeld. Il quitte la région. Pour Anna, la situation prend donc une tournure aussi dramatique qu'ordinaire, quelque part. Parce qu'elle ne peut pas être enceinte sans être mariée, elle essaie de cacher sa grossesse. Elle change de travail. Mais les rumeurs circulent. Elle accouche seule quelques mois plus tard. Et son nouveau-né n'a pas 24 heures quand il s'étouffe. Il meurt dans son sommeil. La mortalité néonatale est élevée à l'époque. Ce type d'événement n'est donc pas hors du commun, loin de là. Et pourtant, Anna Goldie est dénoncée par une voisine, jalouse ou agacée par le caractère, le style de vie de la jeune femme. Peu importe ce qu'on entend par là. Anna est accusée d'avoir caché sa grossesse, puis tué son enfant. Condamnée pour infanticide, elle est humiliée publiquement et mise au pilori. Au sens littéral, hein. Au XVIIIe siècle, la mise au pilori, c'est pas une expression, c'est encore une peine, un supplice bien concret.
mise au pilori, c'est quand on est exposé, entravé devant toute la communauté. Puisque à l'époque, et parfois encore maintenant, on pense à l'exemplarité des peines. C'est-à-dire que c'est dans cette volonté de montrer l'exemple que ces crimes sont punis et avec d'énormes souffrances pour dissuader. C'est la peine publique.
Anna est donc attachée à des piliers en bois, sa tête coincée dans un trou à travers des planches, soumise à l'indignation publique, aux insultes, aux crachats. Elle reste des heures comme ça, comme tant d'autres avant elle, face à l'humiliation, au mépris. Elle connaissait la misère, mais c'est là qu'elle expérimente l'injustice dans sa chair. Quand on la libère, il lui reste une autre partie de sa peine à purger. 6 années de résidence surveillée, enfermée dans la maison de sa sœur et de son beau-frère, qui n'ont ni estime ni amour pour elle. Anna Goldie n'est pas une rebelle ou une révolutionnaire, elle n'est pas née désobéissante ou révoltée. Elle l'est devenue petit à petit. Ainsi, au bout de 3 ans, enfermée chez sa sœur, à subir le mépris, les calomnies, elle décide que c'en est assez. Elle se dit peut-être qu'elle a assez payé pour un crime qu'elle dit ne pas avoir commis. Elle se dit peut-être qu'elle a le droit d'avoir une vie à elle. En tout cas, elle s'enfuit. Un nouveau départ. Pour ce faire, elle doit changer de canton, en trouver un qui n'appartient pas à la juridiction zurichoise, pour pouvoir laisser son histoire judiciaire derrière elle. Mais sans argent, sans contact, elle n'a pas de grande marge de manœuvre. Alors elle part au plus pratique, au plus rapide. Le canton de Glaris n'est qu'à 2 jours de marche, au sud-ouest de Zenwald. Ça fera l'affaire. Elle travaille d'abord chez un filateur, vers Saint-Gall, puis déménage pour s'installer chez un relieur, chez qui elle fait le ménage. Elle ne reste jamais très longtemps au même endroit. Peut-être qu'elle craint les petites communautés, les rumeurs, qui ne manquent jamais de la suivre, qu'il s'agisse de son histoire ou des hommes qu'elle fréquente. Alors souvent, elle bouge. Nous sommes en 1768, Anna a 34 ans et elle arrive dans le petit village de Molis. Il paraît qu'un poste de domestique s'est libéré chez l'une des plus riches et des plus importantes familles de toute la région, les Zwicky. Monsieur Zwicky n'est rien de moins que le pasteur de la commune. La jeune femme s'installe donc dans l'immense demeure familiale au centre du village. La bâtisse, construite par un architecte d'État, fait près de 7 étages. La chambre de bonne se situe sous les combles. Alors, c'est pas le grand luxe, mais un emploi dans une famille pareille, c'est une vraie opportunité. Alors elle s'applique, elle s'investit. Et les choses semblent, pour une fois, tourner à son avantage. Tout se passe bien. Peut-être que cette fois-ci, tiens, elle pourrait rester, s'installer vraiment. Sauf que non. Évidemment non. Parce que le fils du pasteur Zwicky, Melchior, sait prendre la jeune femme. Et elle sait prendre lui. Il a 11 ans de moins qu'elle, c'est un jeune médecin, plein d'assurance et de confiance en l'avenir. Il est persuadé que leur liaison secrète pourra bientôt exister au grand jour, qu'ils pourront se marier. Sauf que non. Évidemment que non. Ils n'appartiennent pas au même monde, et c'est un euphémisme. Et la structure sociale de l'époque rendait impossible, ne serait-ce que l'idée d'une telle union.
Au moment des procès de sorcellerie, dans le cas de Anna Goldie, il y a effectivement toute cette société qui est régie par des classes différentes, avec des milieux très différents, et où chacun doit être à sa place pour respecter, là aussi, un ordre divin. Et donc, on ne peut pas mélanger les différentes classes. À l'époque, le statut de la femme était évidemment très différent de celui d'aujourd'hui et chacun, l'homme et la femme, étaient dans une situation où ils n'étaient pas libres. On attendait d'eux un certain comportement, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Celui des femmes était plus inconfortable parce que inférieur à l'homme. Une femme de l'époque moderne était souvent résignée à son sort, et la marge de manœuvre n'était pas forcément grande. Et dans le cas d'Anna Goldie, en tant que servante, elle était sous l'emprise de la famille avec qui elle vivait, elle était sous l'emprise des hommes de cette famille, et comment pouvait-elle résister aux assauts des hommes, assauts sexuels, mais aussi des brimades? Elle était complètement conditionnée par cette famille. Mais ça formait comme une communauté, c'est-à-dire qu'elle faisait partie de la maisonnée.
Anna fait partie de la maisonnée, mais certainement pas de la famille Zwicky. Alors quand, après quelques années, elle tombe de nouveau enceinte, les parents de Melchior s'opposent catégoriquement à l'union de leur fils et de la domestique. Peu après sa naissance, le nouveau-né, issu des amours du couple, décède. Mais on sait qu'Anna décide de partir à ce moment-là. La situation ressemble trop à ce qu'elle a déjà vécu. Un amant qui fuit, une grossesse hors mariage, un enfant qui ne survit pas. Elle sait que les rumeurs feront lien avec son passé. Les parents Zwicky ne veulent plus entendre parler d'elle. Pour éviter le scandale et sauver leur réputation, ils font une lettre de recommandation à Anna et la chassent. Si seulement elle avait pu rester. Si seulement on ne l'avait pas obligée à reprendre une fois encore la route. D'autant plus que, au-delà du danger, devoir recommencer sa vie dans un autre endroit est particulièrement compliqué à l'époque.
D'ailleurs, une des peines prononcées contre les sorcières, c'était le bannissement à perpétuité, ou des fois pour 100 ans. C'est une vraie peine, puisque devoir refaire sa vie dans une autre communauté, on est toujours suspecte, parce que personne ne change de vie et d'endroit sans raison, et c'est toujours des raisons négatives. On n'a plus d'appui, on n'a plus de réseau, et donc là, c'est suspect.
Nous sommes en 1774. Et Anna repart sur les routes. Elle a 40 ans et elle vit ses dernières années de liberté.
Séquence 3. La famille Tschudi et l'arrivée de la magie.
Pendant quelques années, Anna enchaîne de nouveau les petits boulots, chez un armurier puis un serrurier. Contrairement à la grande majorité des femmes de son âge, elle ne s'est donc pas mariée, elle n'a pas fondé de famille, elle ne s'est pas installée quelque part. Elle ne s'est pas ancrée, rattachée à une communauté dans une communauté. Elle a 46 ans quand elle apprend par Rudolf Steinmüller, le ferrailleur du coin, qu'un poste de gouvernante est à pourvoir dans une famille de la commune de Glaris, au centre du canton du même nom. 46 ans, c'est plutôt jeune. Et peut-être qu'elle commence à être fatiguée de toujours être de passage. Peut-être que travailler dans une famille, quand on n'en a pas, ça peut donner l'impression d'appartenir à quelque chose. Elle se présente donc en septembre 1780 devant la porte des Tschudi. Il faut bien comprendre que les Tschudi, ce n'est pas n'importe quelle famille. Ils ne sont pas aussi importants que sa famille précédente, les Zwicky, mais quand même. Le père, Johann Jakob Tschudi, est un notable influent de la communauté. À un peu plus de 30 ans, il est médecin, mais aussi magistrat dans la politique de sa commune. Sa femme, Elisabeth, elle est connue pour être très exigeante et pas très chaleureuse. Elle fait encore porter la coiffe à tous ses domestiques. Le couple a 5 enfants. Quand Anna se présente devant les Tschudi pour le poste, c'est Elisabeth qui la reçoit. Et la maîtresse de maison n'éprouve aucune sympathie pour Anna. Elle lui trouve un drôle d'air. Comme si Anna dégageait quelque chose de particulier. Un mélange d'audace et de mystère.
Tu la connais, cette fille?
Il paraît qu'elle n'est pas mariée.
J'ai entendu parler d'une histoire à Molly.
Elle a un regard. Mais pour qui elle se prend, celle-là? On dirait qu'elle vaut mieux que nous. D'ordinaire, Elisabeth n'aurait pas embauché une femme comme Anna, qu'elle méprise et qu'elle craint, d'une certaine façon. Mais voilà, l'ancienne bonne a claqué la porte du jour au lendemain et avec 5 enfants, c'est intenable. Et puis surtout, Anna Goldie arrive avec une lettre de recommandation de l'une des plus grandes familles de la région, les Zwicky. Et récupérer la domestique des Zwicky, ça fait chic pour Elisabeth. Alors Anna est embauchée. Et pendant un temps, tout semble bien se passer. Mais une dispute va faire basculer l'équilibre de la maisonnée et le destin d'Anna, par la même occasion. Un matin d'octobre 1781, à peu près un an après la prise de fonction de la gouvernante, Anna Maria, la plus jeune enfant de la famille, saute à califourchon sur le dos de la domestique qui est en train de préparer le petit déjeuner. C'est que l'enfant de 8 ans est aussi joyeuse qu'hyperactive. Elisabeth Tschudi entre dans la cuisine alors que la gouvernante gronde gentiment la petite. Mais pour Elisabeth, en grondant sa fille, Anna est sortie de son rôle. Elle se fait houspiller par sa maîtresse qui lui enjoint de s'adresser autrement au petit et puis de remettre sa coiffe correctement. Et elle en profite au passage pour lui rappeler sa place dans la hiérarchie de la maison. Suzanne, la sœur aînée d'Anna Maria, reçoit une gifle de sa mère en tentant de défendre sa gouvernante. Quelques jours après cet incident, au matin du mardi 19 octobre 1781, alors que tout le monde prend calmement son petit déjeuner, la petite Anna Maria se met à crier. Au fond de son bol de café au lait se trouve une aiguille qu'elle a manqué d'avaler. Tous les regards se tournent vers la domestique, en charge de la préparation des cafés, qui se défend de toute responsabilité dans cet incident. Le lendemain, alors qu'une nouvelle épingle est retrouvée dans le bol de l'enfant, Anna est convoquée par Madame et Monsieur Tschudi, qui l'accusent de négligence, la menace de renvoi. La gouvernante, qui décrit en détail la préparation du petit déjeuner, est incapable d'expliquer comment un tel accident a pu se produire. Mais la situation se poursuit et chaque jour, une aiguille est retrouvée, toujours à destination de la jeune enfant. Une fois dans le bol ou dans le verre ou dans un bout de pain, les Tschudi deviennent paranoïaques. On veut leur nuire, c'est certain. Le coupable est rapidement désigné. Enfin, la coupable. Qui d'autre que la bonne, après tout ? Et puis
on la connaît pas vraiment.
D'où est-ce qu'elle vient ? Pourquoi n'a-t-elle pas de famille ?
Elle est bizarre. Je l'ai jamais sentie, cette fille.
Je l'ai jamais sentie. Moi non plus, elle a la malice dans le sang.
Oui, puis les aiguilles, les épingles, c'est pas normal. Un signe du malin, moi je vous dis.
Elle a la malice dans le sang. Moi non plus, cette fille.
Pourquoi est-ce qu'elle a pas de famille ?
Il y a beaucoup de témoins qui corroborent le même acte ou la même chose. Le nombre fait la force aussi parfois. Mais c'est vrai que le statut des accusateurs, si c'est un notable du village ou qui a une position, si c'est le maître d'école, si c'est le chirurgien, si c'est évidemment le curé, le pasteur, si c'est quelqu'un qui exerce une fonction, ça a beaucoup plus de poids. Ça dépend aussi de la crédibilité, de la réputation de la personne accusée, de la femme accusée en l'occurrence. Ça peut être une femme de condition modeste, mais si elle donne l'image de quelqu'un de particulièrement pieuse, qui n'a eu aucune histoire avec ses voisins, sa parole aura aussi un certain poids.
Et Anna, malgré le fait qu'elle n'ait jamais rien eu à se reprocher à Glaris, eh bien elle n'a pas une bonne réputation. Alors sans davantage d'enquête que la rumeur qui circule, et en dépit de ses protestations, Johann Tschudi renvoie Anna Goldie. Le 25 octobre 1781. Siècle des Lumières ou pas, les croyances sont encore bien ancrées dans ce coin d'Europe.
Il y a des croyances, la magie existe. Alors à l'époque moderne, il y a très peu d'athées, donc tout le monde croit en Dieu et tout le monde croit au diable. Et Dieu et le diable utilisent la magie. Et donc la magie, c'est une composante du monde dans lequel ils vivent pour eux. Et donc c'est pas quelque chose d'extra, enfin c'est extraordinaire, mais c'est quelque chose d'admis. Et on a peu accès aux mentalités, puisque peu ont donné leur avis sur ces croyances-là. C'est très compliqué. Il y a quelques cas de personnes qui ont raconté comment ils voyaient le monde, leurs croyances, qui expliquaient les choses, mais c'est absolument exceptionnel. Et l'ensemble des gens se raccrochaient à un univers mental qui leur était donné et pour lequel ils n'avaient pas beaucoup de choix. Donc ils devaient adhérer aux croyances de l'époque. Et donc ils pensaient à la magie et ils pensaient au mode opérant. On ne s'explique pas tout par la science. Et encore aujourd'hui, on n'explique pas tout encore par la science. Et donc la magie est une explication. Et les faits qui nous paraissent aujourd'hui complètement aberrants ne l'étaient pas pour l'époque. Et inversement, des choses qui nous paraissent, nous, normales, étaient considérées comme parfaitement exceptionnelles à l'époque.
Pour Anna, c'est une injustice de plus. Mais si elle sait qu'elle n'a pas le choix que de subir la décision du maître de maison, elle veut signaler cette décision arbitraire. Alors elle part s'adresser au bailli de la ville, Altmann, l'équivalent du bourgmestre de la commune. Et elle dépose une plainte, mentionnant notamment qu'elle a été chassée injustement pour une sombre histoire d'apparition d'épingles dans des tasses. C'est courageux de sa part. Inutile, malheureusement, mais courageux. Le bailli en a rien à faire de cette plainte absurde et de cette histoire d'épingles tout aussi absurde. Pour se débarrasser du problème, il l'envoie chez le pasteur. Et le pasteur, eh bien, le pasteur, il ne la sent pas, cette femme. Et puis, une domestique qui remet en question les bonnes décisions de ses maîtres, il lui ordonne de quitter la région, de partir loin et de jamais revenir. Le pasteur ne lui dit pas qu'il connaît personnellement la famille Tschudi. Il ne lui dit pas que sa nièce préférée n'est autre qu'Elisabeth Tschudi. Non, ça, il ne lui dit pas. Alors Anna retourne récupérer ses quelques affaires et ses maigres économies dans la demeure de la famille. Elle passe ensuite se réfugier chez Steinmüller, le ferrailleur, celui qui lui avait indiqué un an auparavant qu'un poste se libérait. L'un des seuls membres de la communauté avec qui elle a pu tisser quelques liens. Et Anna n'a pas passé la porte d'entrée que Dorothée, la femme du ferrailleur, lui raconte déjà que toutes sortes de rumeurs sont en train de courir dans la ville. On raconte qu'elle a forcé les enfants à manger des aiguilles, qu'elle a couché avec son patron, qu'elle est enceinte, qu'elle a déjà tué des bébés. Alors Anna comprend. Entre son passé et les nouvelles rumeurs, elle sait qu'elle ne peut plus rester à Glaris. Alors elle prend son baluchon et elle s'enfuit.
Séquence 4, les aiguilles de la sorcière.
L'affaire en serait peut-être restée là si la petite Anna Marianne s'était pas mise à vomir des aiguilles. Parce qu'en effet, quelques jours après le départ de la domestique, un cri strident retentit dans la maison des Tschudi. La famille accourt auprès de l'enfant qui est en train d'hurler. Anna Maria est en train de vomir un mélange de glaire et de sang. On raconte que des aiguilles sont recrachées par la petite. Cette scène, qui affole la famille et le village, se reproduit presque tous les jours. L'état de l'enfant se dégrade. Elle a des convulsions, de la fièvre, des accès de délire. Les muscles de sa jambe gauche répondent de moins en moins. Son pied est paralysé. Et chaque jour, on dit qu'elle vomit de nouvelles épingles. Le pasteur, l'oncle d'Elisabeth, vient tous les jours pour noter ce qui se passe. Le 18 novembre, 3 épingles avec de la bile et du sang. Les jours suivants, 3 fils de fer dans des glaires. Les jours d'après, 2 aiguilles, etc., etc. Et pour le père d'Anna Maria, la situation est particulièrement délicate. Johann Tschudi est médecin. Il est censé savoir soigner, guérir. C'est donc sa réputation en plus de sa fille qu'il risque de perdre. Il tente tout ce qu'il connaît, mais rien ne marche. Il faut pourtant qu'il y ait une cause à ces terribles maux. Alors on commence à chercher ailleurs. Et vite, et très vite, une réponse apparaît. Elle s'appelle Anna Goldi et c'est sûr. Elle a jeté un sort à cet enfant.
On a pas mal d'exemples dans les archives de sorts donc envoyés par les sorcières et qui rendent malades des enfants ou des adultes et qui pourraient vomir donc des épingles, du fil et beaucoup de choses, même des fois des insectes, des choses comme ça. C'est quelque chose qui est assez répandu. Mais là encore, c'est difficile dans le cas d'Anna Goldi. Il n'y a eu aucune preuve, pas de témoin à ces scènes, à part la famille. Évidemment, c'est très difficile de vomir des clous ou des épingles. Mais c'est aussi le ventre. On est dans le ventre et on essaye d'expulser du ventre des choses qui sont extrêmement malfaisante. Donc là encore, il y a une part de symbole et une part aussi, c'est-à-dire que les problèmes de ventre, d'estomac, de digestion, de carence, de problèmes, étaient une vraie réalité à l'époque.
Johann, Elisabeth, le pasteur, ils en sont tous certains. C'est Anna Goldi qui a ensorcelé Anna Maria. C'est elle. C'est la sorcière. Ils portent plainte contre leur ancienne domestique le 26 novembre. Un avis de recherche est publié dans la foulée par la chancellerie protestante de Glaris. L'avertissement devra être entendu dans toute la région.
L'honorable canton de Glaris, de confession protestante, offre sans couronne à quiconque découvrira et remettra à la justice la dénommée Anna Goldi.
Si après décrite, elle a commis ici un acte monstrueux sur la personne d'un enfant innocent de 8 ans, en lui faisant absorber par des voies mystérieuses une quantité d'épingles et d'autres objets.
Anna Goldi, âgée de 40 ans environ,
de stature forte et grande, visage rond et rougeau,
cheveux noirs ainsi que sourcils,
a des yeux un peu maladifs, le plus souvent
rougis. Son aspect est abattu.
Elle s'exprime dans le dialecte de Zenfald, porte une jupe couleur mode,
une robe bleue
et une à rayures.
Par-dessus un jupon ajouré, une veste damassée, des bas blancs,
un capuchon noir sur lequel elle a une coiffe blanche.
Enfin, elle porte un ruban de soie noire.
Si Anna est de nouveau sur les routes après avoir eu vent de l'avis de recherche la concernant, elle ne parvient pas à échapper aux gendarmes.
Souvent on se dit, mais pourquoi ces personnes et ces femmes, elles n'ont pas fui? Mais on ne peut pas fuir quand on est une femme, parce que déjà, être sur les routes, quand on est une femme sans protection, c'est dangereux. Et on vous rattrape, c'est-à-dire qu'on pense, parce que c'est dans une époque reculée, je sais pas, il n'y a pas de communication, mais si, il y a toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un et on vous retrouve. Il faut bien s'imaginer que les gens de l'époque savaient très bien jouer avec la notion de frontière, dans tout l'entrelac juridictionnel. Ils savaient très bien quelles étaient les terres soumises à telle ou telle autorité, et donc savaient très bien qu'on pouvait fuir. Et donc on n'est plus sous le coup donc, de l'autorité de ceux qui vous poursuivent, mais il y avait quand même de la coopération entre les différentes juridictions. On a beaucoup d'exemples. En Alsace, qui était un entrelac fantastique de multitudes de juridictions, il y avait des coopérations. Et donc, on pouvait, bien sûr, être retrouvé par la justice.
Anna est arrêtée quelques jours après la diffusion de l'avis de recherche. Les gendarmes ont peur de la toucher, alors ils la font marcher devant eux, pieds et poings liés. Après 24 heures de marche, où elle s'est fait insulter, cracher dessus, ils arrivent à Glaris et l'enferment dans une cellule au dernier étage de l'hôtel de ville. Il a été décidé qu'elle serait jugée par le conseil de l'église protestante gléronaise. Et peu importe que ce tribunal ecclésiastique ne soit d'ordinaire compétent que pour les affaires privées. Le pasteur n'est sans doute pas pour rien dans cette décision. Même si, contrairement à ce qu'on peut croire, au cours de l'histoire de la chasse aux sorcières, c'est les juges laïcs qui se sont révélés plus cruels et plus fanatiques que les religieux. Mais ça n'empêche que, dans le cas d'Anna Goldi, c'est peu dire que le rapport de force est déséquilibré. Et c'est toute la vie de cette femme qui va peser contre elle.
souvent les accuser de sorcellerie, c'est parce qu'elles n'avaient pas forcément le soutien nécessaire pour résister aux attaques contre leur réputation, aux rumeurs qui pouvaient les accuser de sorcellerie. Et quand on a un mari puissant, un entourage puissant, une fonction importante, on a les moyens de résister à ces attaques. Il y a des dénonciations en boule de neige qui attaquent un peu n'importe comment. Des fois, on ne trouve pas trop... C'est que les réseaux sociaux de l'époque, donc on dénonce celles qu'on connaît. C'est vraiment, je répète, quelque chose, un crime à l'intérieur même d'une communauté. Donc c'est quelque chose d'intérieur. En plus, en tant que servante, on est souvent dans un autre village, dans une autre ville. Et donc, on n'a pas ses appuis familiaux et son réseau habituel. Et donc, là aussi, on est beaucoup moins fort, beaucoup moins forte. Et ça peut être beaucoup plus compliqué. Cette capacité à contrecarrer des dénonciations, ça tient à l'entourage, au réseau, mais aussi parfois à certaines vagues au moment opportun. Et donc, quand on pourchasse, quand on cherche, on peut trouver, bien sûr, plus facilement.
Et dans le dossier Anna Goldi, le moment semblait particulièrement opportun. Elle est enfermée et au bout de 15 jours, un exorciste appelé en renfort vient la rencontrer. Il lui explique les deux choix qui s'offrent à elle. Soit elle accepte d'aider, de soigner l'enfant, et auquel cas sa peine sera plus douce, soit elle refuse, et elle sera torturée puis condamnée à mort. Autrement dit, elle a le choix entre réussir à soigner l'enfant, à annuler le maléfice, et donc à prouver que c'est une sorcière, ou bien ne pas soigner l'enfant et être condamnée à mort pour cela. Le piège qui a abouti à la mort de dizaines de milliers de personnes avant elle, eh bien ce piège est en train de se refermer sur Anna, qui clame son innocence mais qui obéit. Elle est donc amenée discrètement plusieurs fois chez ses anciens employeurs pour tenter de soigner l'enfant. Elle n'a aucune idée de ce qu'elle peut ou doit faire pour soulager la petite, alors elle tente des choses. L'huissier l'accompagne et note tout ce qu'elle fait. Elle manipule doucement la jambe d'Anna Maria, elle récite des prières, elle lui fait comme des massages. Et au bout de quelques rencontres, la fille Chudi retrouve l'usage de sa jambe paralysée, comme par magie. Mais si la mère est soulagée pour son enfant, Monsieur Chudi n'apprécie pas ce qu'il vit comme une humiliation. Une vieille femme analphabète qui pourrait réussir là où lui, le notable, l'éduqué, a échoué? C'est une hypothèse qui est difficile à croire, non? La seule explication, c'est la magie. C'est la sorcellerie. Anna Goldi est une sorcière et sera donc jugée comme telle.
Séquence 5, le procès de la sorcière.
En février 1782, la procédure contre Anna Goldi est officiellement lancée. Mais parce que la société de l'époque est en train de changer, pour rester discret vis-à-vis des autorités de la région, du pays, il a été décidé d'éviter de mentionner les termes de sorcière ou de sorcellerie. On parlera d'empoisonnement, plutôt. Et ce n'est ni un hasard ni un détail. Parce que c'est à cette époque que se produit la transformation de la figure de femme coupable qu'est la sorcière vers celle de l'empoisonneuse.
Anna Goldi est une sorcière, mais une sorcière empoisonneuse qui atteste la transition entre la vague de sorcellerie et la vague d'empoisonneuse. L'affaire des poisons aussi, que tout le monde connaît pour le royaume de France. Et donc, on est encore de l'intérieur. C'est-à-dire, le poison, c'est pas une arme à feu, c'est pas quelque chose qui se voit. Donc, c'est encore caché. D'où le crime féminin. Le poison est une façon de tuer qui est beaucoup plus féminine, bien sûr, dans l'esprit de l'époque et toujours actuellement. Et donc, les empoisonneuses font suite, et beaucoup de sorcières, dès le Moyen-Âge et pendant toute l'époque moderne, étaient accusées justement de donner le mal par empoisonnement, c'est-à-dire avec un breuvage, avec des poudres, avec quelque chose de matériel qu'il fallait ingérer.
Donc personne n'est dupe. À son procès, Anna Goldi risque la peine de mort, et personne ne risque la peine de mort pour un empoisonnement non mortel. Ce n'est même pas reconnu comme un acte pénal d'ailleurs. Mais pourquoi tant d'insistance pour mettre en place un faux procès pour empoisonnement, qui est en réalité un procès pour sorcellerie mais qui ne peut pas dire son nom, tout ça pour obtenir la tête d'une accusée qui ne vient pas de la commune et qui en était d'ailleurs déjà repartie? Peut-être parce que la sorcellerie n'est pas son seul crime. Peut-être qu'il y a une autre raison qui pousse M. Chudi à exiger de toutes ses forces de notable le jugement et l'exécution d'Anna. Quelque chose de beaucoup moins mystérieux qu'un ensorcellement, de beaucoup plus ordinaire, à l'époque comme aujourd'hui. Vous vous rappelez, après avoir été renvoyée des Chudi, Anna est allée voir le bailli Altman pour porter plainte. Elle contestait les motifs de son renvoi, mais pas que. Il s'avère que, dans cette plainte, elle raconte le harcèlement sexuel, les agressions, dont elle a été victime de la part du maître de maison, Johann Jakob Chudi. Rendu public, cette liaison aurait représenté la mort sociale et professionnelle du médecin. Il n'aurait pas été inquiété par la justice, non, son statut l'aurait probablement protégée. Mais sa réputation, elle, elle aurait été ravagée. Alors Johann Tschudi insiste. Il fait jouer ses réseaux auprès du bailli, auprès de ceux de son beau-frère, le pasteur. Anna Goldie doit être jugée, punie et exécutée. Elle doit disparaître. Le 27 mars 1782, l'interrogatoire d'Anna débute. Elle nie avoir voulu empoisonner ou ensorceler l'enfant. Et puisqu'elle nie, les juges passent à la question.
Pour prouver, il n'y a que les aveux. Et donc, il faut avouer. D'où la résistance et l'emploi nécessaire pour le système judiciaire de l'époque de la torture, puisque comme il suffit de dénier toute implication pour théoriquement pas être inquiété. Et donc, il faut extirper la vérité de la bouche des accusés. Les méthodes de torture ne sont pas les mêmes partout. Les instruments de torture, les brodequins pour écraser, par exemple, le bout des doigts, les strapades ou l'échelle pour disloquer les membres, les épaules et tirer complètement. Donc ça dépend de la juridiction, ce qui est autorisé ou pas. Mais c'est toujours très encadré. La torture est extrêmement encadrée. C'est souvent par tranche, par exemple, de 15 minutes, 3 fois maximum. Et il y a normalement la présence d'un chirurgien ou de quelqu'un qui vérifie que vous ne saignez pas. Donc on n'a pas le droit de vous saigner. Et surtout, il ne faut pas vous faire mourir. Mais ça, c'est le cadre théorique. Et donc, il y a beaucoup d'exemples dans les procédures où les autorités locales outrepassent ces directives, donc torturent beaucoup plus sévèrement, avec plus de séances, plus longtemps, et des accusés meurent en prison. Et là, parfois, on dit bah, c'est le diable qui est venu tabasser la sorcière et qui l'a fait mourir en prison, parce qu'il ne voulait pas qu'elle avoue, pour dédouaner le bourreau et le système judiciaire, le tribunal en question.
Pour l'essayiste Mona Chollet, c'est l'accumulation des discours de haine et une hostilité devenue obsessionnelle qui ont justifié le passage à la violence physique. Violence physique qui est dès lors perçue comme une légitime défense du corps social. Dans le cas d'Anna Goldie, cette violence physique sera ordonnée par le conseil de l'église protestante claronaise. Elle prendra la forme de plusieurs actes de torture. Anna est d'abord suspendue par les pouces, en haut d'une échelle. Elle est nue, ses chevilles sont lestées de poids. Elle sera ensuite brûlée par une pince chauffée à blanc. Elle avoue tout ce qu'on veut qu'elle confesse. Oui, elle a agi sur ordre du diable. Oui, elle a passé un pacte avec lui. Oui, elle a jeté un sort à l'enfant, via des petites graines jaunes et blanches qu'elle a introduites dans un biscuit. Oui, elle a été aidée dans son entreprise. Oui, elle veut dénoncer d'autres suppôts du malin, comme Rudolf Steinmüller, par exemple. Steinmüller. Arrêté puis torturé, le ferrailleur sera retrouvé pendu dans sa cellule quelques jours plus tard. Il sera dit à sa femme, Dorothée, que le diable est venu le chercher pour lui éviter l'humiliation d'avoir été découvert. Tout se déroule exactement comme à l'âge d'or des procès pour sorcellerie. Sauf que, encore une fois, l'époque n'est plus la même. Le 19 avril 1782, le pasteur de la commune, l'oncle d'Elisabeth Tschudi, reçoit un courrier du chef suprême de l'église réformée, qui a eu vent du procès. Et qui refuse que les territoires sous son autorité se lancent à nouveau dans une chasse aux sorcières. Il ne veut pas que son église soit entachée par des pratiques d'un autre temps. Et puis, il est rappelé que le conseil de l'église protestante n'a ni légitimité ni autorité en la matière. Le pasteur est humilié. Sa colère à l'égard de l'accusé n'en sera que plus grande. Après 17 semaines et 4 jours de détention et de torture, Anna Goldie est condamnée à mort.
Vous avez été reconnu coupable au cours d'interrogatoire avec et sans contrainte. Vous avez reconnu dans l'intention très méchante et avouée de la rendre infirme. Le conseil vous juge au titre d'empoisonneuse, vous condamne à être conduite sur la place publique de Glaris, où vous serez exécutée au moyen de l'épée. Votre corps sera enfoui sous l'échafaud.
Elle est décapitée dans la foulée. Son corps sera enterré sur le lieu de l'exécution, sans inscription aucune.
C'est-à-dire que c'est une offense à la communauté, c'est une offense devant Dieu, c'est un crime de lèse-majesté temporelle, donc contre la justice, mais aussi de lèse-majesté divine, contre l'ordre de Dieu, puisque c'est vouloir rejoindre les forces du mal. Et donc il faut que le crime soit vraiment traité de façon exemplaire. la façon d'exécuter les sorcières, on pense toujours évidemment au bûcher, puisque c'était la méthode d'exécution qui était prônée par les autorités pour en fait annihiler complètement ce mal, pour que en brûlant il reste plus de molécules, enfin que vraiment ce soit éradiqué dans les tréfonds de la matière. On brûlait aussi souvent l'acte des procès avec le cas pour que tout disparaisse. Mais certaines sorcières étaient décapitées, comme Anna Guldich. Là, c'est aussi un adoucissement de la peine. Décapiter, théoriquement, c'est en un geste, et c'est beaucoup moins douloureux que de mourir brûlée vive sur un brasier. Dans certains cas, on pouvait acheter le bourreau pour donner une chemise imprégnée de soufre à la sorcière pour qu'elle flambe plus vite et donc qu'elle meure plus vite avec moins de souffrance. On pouvait être étranglé avant d'être brûlé. C'est-à-dire que dans certains procès, si on a bien dénoncé, si on a bien coopéré, eh ben on vous fera la grâce de vous étrangler après vous avoir fait sentir quelque peu l'ardeur du feu, comme une sorte de clémence.
Si l'accusé a échappé au bûcher, c'est aussi parce que les juges avaient envie d'en finir discrètement avec cette affaire. Et décapiter quelqu'un, c'est plus rapide, c'est plus efficace que de le faire brûler. Mais les efforts des autorités de Glaris pour étouffer le procès sont vains. Puisque, moins de 2 mois après l'exécution d'Anna Guldi, 2 journalistes allemands s'intéressent au dossier. Ils viennent sur place pour récolter des informations et parviennent à démontrer que les aveux de la jeune femme ont été extorqués sous la torture, qu'une plainte avait été déposée par l'accusé en amont du procès et que, somme toute, l'exécution de la servante n'avait rien à voir avec de la justice. Il parle d'assassinat légal pour qualifier la mort d'Anna Guldi, une expression qui sera reprise ensuite pour désigner les exécutions conduites par une autorité arbitraire. Et si les 2 hommes ont obtenu ces informations, c'est grâce à l'huissier du procès, Melchior Kubli. Vous rappelez celui qui était un peu mal à l'aise? Cet homme, qui s'avérait être un fervent opposant à la peine de mort, avait illicitement dérobé des extraits de procès-verbaux pour conserver des preuves de ce dont il avait été témoin. C'est grâce à lui qu'en 1782 et 1783, via 2 articles, l'affaire Guldi va être médiatisée et choquer nombre de personnes en Europe. Et c'est grâce à ces articles et au journal de bord d'un des 2 journalistes qu'en 2006, un autre journaliste, suisse cette fois, Walter Hauser, découvre l'histoire d'Anna. Il décide d'entreprendre auprès des autorités locales et religieuses de Glaris une procédure en réhabilitation.
Et l'affaire est arrivée ce matin sur les bancs du Grand Conseil glaronnais.
Ainsi, après quelques années de bataille, Walter Hauser obtient la reconnaissance et la confirmation a posteriori de l'innocence d'Anna Guldi. C'est la première fois en Europe qu'une sorcière est réhabilitée.
225 ans plus tard, le jugement d'Anna Guldi est cassé.
Le gouvernement local indique:
c'est l'annulation d'une sanction incompréhensible et inique et la reconnaissance d'une injustice crasse prononcée par une instance illégale.
Elle est désormais innocente.
La sorcière est souvent un personnage féminin, et il y a beaucoup d'a priori sur la féminité. Et il y a toujours ce modèle à la fois de Ève, la pécheresse, et de Marie, là encore la figure emblématique de la bonté, de la mère. Le monde est polarisé entre ces 2 images, mais les 2 sont des extrêmes inatteignables pour le statut de Marie, et évidemment caricaturales pour la sorcière. Et donc, entre ces 2 extrêmes, il y a la réalité. La sorcière est le symbole, l'icône absolue de la femme divergente, de celle qui est hors du droit chemin qu'on voudrait l'avoir emprunté. C'est une figure qui est l'occasion de s'interroger sur notre perception de la féminité, de la divergence, des croyances, de la magie, de l'impact dans une communauté, de la brebis galeuse à l'intérieur d'un groupe. Donc c'est une occasion de réfléchir.
C'est pour cela que le travail des historiennes et des historiens sur les vécus et les personnalités des femmes condamnées pour sorcellerie à travers les âges est fondamental. Parce que l'histoire des sorcières n'est pas que l'histoire d'un mythe. C'est aussi un pan de notre propre mémoire collective. Et ainsi, en nous permettant d'avoir accès à la diversité de ces histoires, ce travail dessine aussi en creux ce qui rassemble ces femmes. Ce faisant, il détaille les contours de la figure de la sorcière, une figure qui incarne donc, plus que tout autre, celle de la femme coupable. Et pour poursuivre cette plongée dans les procès de femmes condamnées, nous nous intéresserons dans le prochain épisode pas simplement à une femme coupable, mais à une reine coupable. Et puis pas n'importe laquelle, la dernière reine de France. Accusée de trahison et de conspiration contre l'État quelques mois après l'exécution de son mari, l'ancien roi Louis XVI, Marie-Antoinette est jugée par un tribunal révolutionnaire aussi partial qu'expéditif. Car la toute jeune République française, qui n'a pas fêté son premier anniversaire, est déjà dans la tourmente. Et rien de mieux qu'un bouc émissaire pour justifier ses errements auprès du peuple. Ce n'est pas Marie-Antoinette qu'on condamne, c'est le symbole. Symbole d'un ancien régime, évidemment, mais aussi celui de la déchéance morale et sexuelle des femmes. Marie-Antoinette, le procès d'une reine, à retrouver dans le prochain épisode de notre série « Femmes coupables ». Merci à Maryse Simon, historienne, spécialiste de l'histoire de la sorcellerie dans l'Europe de l'époque moderne. Elle a notamment co-dirigé deux ouvrages consacrés à ce sujet, ouvrages respectivement intitulés « Sorcellerie savante et mentalité populaire » et puis « La sorcellerie et la ville », ouvrages tous deux publiés aux éditions des presses universitaires de Strasbourg. Femmes coupables, un podcast La Première, de Juliette Proutot, préparé avec Margot Page et réalisé par Anna Buis et Alexandre Duval. Tous les épisodes de la série Femmes coupables consacrés au grand procès de femmes sont disponibles sur la page podcast du site lapremière.be ou sur Ovio.